Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Mistral, émission spéciale aujourd'hui avec les assises de l'économie sociale et solidaire. On est en direct pendant les assises, donc vous pouvez entendre derrière nous peut-être les discours d'introduction qui sont là. On va enchaîner une émission spéciale avec notamment Pascal Jeanne. Salut Pascal.
Bonjour Charlie, merci beaucoup.
On sera voilà. En binôme pour cette émission spéciale.
Voilà, comme ça je serai là pour faire des petites relances, à compléter un peu le tableau et puis faire en sorte de mettre en avant tout le bonheur et la joie qu'on a d'être à ces assises de l'ESS.
Exactement, l'économie sociale et solidaire, gros sujet. Il y a des sujets un peu lourds autour de l'ESS, comme on peut l'appeler, on y reviendra. On va démarrer cette émission avec les acteurs de terrain, en tout cas on les a appelés comme ça, mais d'ores et déjà, je remercie également la technique avec Maxime et Jonathan qui sont à la manœuvre et qu'on n'entendra pas forcément, mais qui bossent pour Fréquence Mistral, et puis également Odile et Tiffany qui ont préparé cette émission et l'ensemble de la matière pour cette émission. On va démarrer sans plus attendre du coup l'émission spéciale. On est sur les assises de l'économie sociale et solidaire, sur un sujet autour du bien vieillir à domicile qui est un défi à relever, en tout cas c'est le titre évoqué par les co-organisateurs, la Chambre des métiers, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et Provence-Alpes agglomération. On est sur les quatrièmes assises de l'économie sociale et solidaire. On a des temps forts, vous entendez derrière nous, c'est l'ouverture, l'inauguration de ces assises, mais on a deux tables rondes qui vont venir aussi ponctuer ces événements avec l'habitat adapté au bien vieillir et en bonne santé. On y reviendra, l'habitat, avec notre première invitée, et l'accompagnement pour bien vieillir en bonne santé à domicile. On y reviendra aussi avec un deuxième invité également. On aura trois séquences sur cette émission, une séquence acteurs de terrain, j'en ai déjà parlé, une séquence plutôt politique avec la vision de nos politiques locaux sur le sujet de l'économie sociale et solidaire et ce qu'on traverse actuellement d'un point de vue notamment financier. Et puis on reviendra aussi sur la philosophie, l'idée des assises de l'ESS, on est à la quatrième édition je le disais, avec nos invités en fin de plateau. Voilà, on démarre sans plus attendre, du coup, avec nos invités autour de la table. Pascal, je vais les annoncer, si tu le souhaites.
Mais vas-y, des têtes connues, reconnues, donc, des nouvelles têtes. Mais, c'est un plaisir de vous voir, mais le suspense est là. Vas-y, Charlie.
Je vais qui est avec nous. Donc, autour de la table, on a Corinne et Toiti. J'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes directrice de Sorénis et vous allez nous parler d'un projet qui a déjà été lauréat à plusieurs reprises, qui est déjà passé par les assises de l'ESS et par Fréquence Mistral. Et vous y reviendrez parce qu'il a un petit peu avancé ce projet. Et puis vous avez un appel à faire a priori, donc on y reviendra. Autour de la table, on a également Emmanuel Martin. Vous êtes directrice de la Fédération ADMR des Alpes de Haute-Provence. Donc, vous accompagnez au quotidien les personnes âgées sur le territoire. Et puis, il y a également Rémi Charpie, président de la Mutualité française et également de la ressourcerie de Haute-Provence, qui interviendra autour de cette première séquence dédiée aux acteurs de terrain. On démarre tout de suite de manière très concrète avec vous. Corinne, est-ce que vous voulez nous présenter le projet que vous menez depuis un petit moment avec votre structure? Et puis, dites-nous où est-ce qu'il en est.
Alors, le projet, c'est effectivement la résidence intergénérationnelle de Cérestes-en-Luberon. Donc, à Cérestes-en-Luberon, nous avons créé un projet intergénérationnel qui est multipartenarial. Quand on dit multipartenarial, ça veut dire avec les acteurs locaux, mais ça veut dire aussi avec des partenaires financiers, des partenaires techniques. Donc, quand on a démarré il y a 3 ans maintenant, l'idée c'était de créer un habitat en milieu rural, de faire une expérimentation aussi, de créer un habitat en milieu rural. On parle de l'habitat et des besoins des personnes vieillissantes, et puis on élargit aux besoins du territoire. Alors, ça donne quoi concrètement? Ça donne une résidence qui a 58 logements intergénérationnels, dont la moitié est réservée aux personnes vieillissantes ou en situation de handicap. Une autre partie et effectivement pour les personnes qui ont besoin, tout simplement. Ça peut être des familles, ça peut être aussi d'autres personnes vieillissantes, mais Ça peut être tout type de des personnes qui sont fragilisées, des personnes, des familles monoparentales, voilà. En tout cas, des gens qui sont sur le territoire et qui ont besoin d'être logés. Et puis, on a aussi 18 maisons en accession sociale qui sont construites sur cette résidence. Et ces 18 maisons, en fin de compte, elles sont là pour les jeunes, les primo-accédants, pour permettre qu'ils restent aussi en milieu rural et pour ceux qui travaillent, pour leur offrir, pour leur permettre d'être propriétaires, voilà, d'accéder à leur première propriété à des prix défiant toute concurrence, puisque ça rentre dans le cadre des compétences du bailleur social. Et ce dispositif s'appelle PSLA. PSLA, c'est de l'accession sociale qui est vendue en dessous du prix du marché, voilà, avec un accompagnement spécifique, et ça permet effectivement de garantir aux jeunes un accompagnement, donc, et d'accéder à leur propriété dans des conditions qui vont être sereines, tranquilles, de pérenniser leur financement.
Quelle est la particularité de cet habitat inclusif ? Je vois que votre slogan, en tout cas, est intitulé « Innovation sociale au cœur de la ruralité ». Quelle est cette particularité de l'habitat inclusif que vous développez aujourd'hui et qui va sortir de terre dans quelques semaines ?
Ça sort de terre au mois de février, voilà. Donc là, on est en train de finaliser. Alors, il est effectivement particulier parce qu'il est sur la commune de Cérestes-en-Luberon, mais il est dédié aux 12 communes du bassin de vie. Ça veut dire qu'on a travaillé à l'échelle des 12 communes pour que il y ait un impact social qui permette aux habitants de ces 12 communes de venir à la fois à la maison partagée. Alors cette maison partagée, c'est quoi ? C'est une maison partagée de 230 mètres carrés qui est entièrement inclusive, comme toute la résidence d'ailleurs, dans lequel on a un atelier numérique, un atelier bricolage-réparation dans lequel on a un partenaire qui va mettre à disposition un animateur agréé pour réparer des fauteuils roulants et du matériel des personnes handicapées. Aujourd'hui, ça coûte très cher. Et donc, on va apporter un véritable service là-dessus. On a 100 mètres carrés dédiés avec une grande salle où il y a une cuisine inclusive qui monte et qui descend pour les personnes vieillissantes et aussi pour les enfants, puisque l'école d'à côté...
Qui monte et qui descend.
Et oui.
C'est-à-dire
Une cuisine avec un bouton électrique, vous avez les éviers qui montent, qui descendent, voilà, à hauteur, de façon à ce que les ateliers cuisine soient quelque chose de partagé, soient quelque chose d'intergénérationnel. Okay. Donc on va avoir ce système-là. Et on a la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a le premier potager permaculture entièrement inclusif. Et donc là, on travaille avec un architecte spécialisé sur le sujet, où tous les habitants du bassin de vie pourront venir. Donc on fait des bacs et on fait maximum de choses avec des matériaux de récupération. L'ensemble de la maison partagée, sauf la cuisine, est fait dans le cadre d'un projet avec des ressourceries et dans le cadre d'un projet d'insertion, où ce sont des personnes en tout cas, qui sont en insertion, qui récupèrent le matériel, qui vont le reconditionner dans le cadre d'un projet avec l'architecte. Donc on est vraiment sur quelque chose de vertueux.
On voit bien le nombre de partenariats et de partenaires et de parties prenantes, je dirais même, ouais, dans le cadre de ce projet-là. C'est assez... tentaculaire, peut-être.
Oui, c'est un peu tentaculaire.
Ça peut mettre du temps à se mettre en place, a priori. Ouais. Le côté inclusif, on le comprend très bien sur le fait de pouvoir adapter finalement la vie quotidienne dans un logement, si je comprends bien, avec ce que relevait Pascal sur le fait de pouvoir abaisser une cuisine, etc. En tout cas, c'est de rendre le plus longtemps possible l'accès à l'habitat individuel en partie aux personnes âgées, si c'est ça l'objectif de cet habitat inclusif.
C'est ça, et aujourd'hui, on est tous d'accord, je crois que le constat il est assez clair. Les modèles qui ont été créés de résidences spécifiques, des établissements spécifiques, qui sont arrivés à bout de souffle. À la fois en termes de vivre ensemble, parce que il y en a pas. Enfin, clairement, je veux dire, le vivre ensemble, c'est quand tout le monde se côtoie. Là, c'est réservé à des personnes qui sont d'un certain âge, mais aussi en termes financiers. Voilà, ce sont des établissements qui coûtent extrêmement cher. Nous, ce qu'on a voulu proposer avec ce projet, c'est on part du logement adapté, mais on travaille sur le vivre ensemble. Et puis, on a un volet mobilité, nous. Donc, on travaille sur la mobilité. Là, on a une étude qui est en cours pour regarder comment on va pouvoir mettre en place un minibus ou deux pour aller chercher les personnes vieillissantes, mais aussi les personnes fragilisées du bassin de vie, qui vont pouvoir aller à la fois à la maison partagée, à la fois au centre pluriprofessionnel de santé, parce que une maison de santé, pardon, pluriprofessionnelle qui va ouvrir en même temps, qui fait partie du projet de territoire qu'on a créé, mais qui est sous maîtrise d'ouvrage ville. Voilà, c'est la ville de Serrest. Et du coup, ça donne du sens à tout ça parce que ça va faire vivre aussi l'économie locale, les commerces de proximité. Donc effectivement, on fait des ateliers participatifs. Derrière moi, vous avez quelques photos là. On a travaillé sur l'aménagement de la maison partagée, sur le potager permaculture, sur tous les sujets avec les habitants. Ça fait 3 ans qu'on fait des ateliers. Et là, on va encore en faire un spécifique sur la mobilité. Donc, on fait un petit appel aux gens du bassin de vie. Hein. Vous serez invités très bientôt.
Donc, voilà. C'est l'appel que vous vouliez faire
C'est pas l'appel que je voulais faire. C'est pas encore celui-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de finaliser. On est en train d'acheter tout ce qu'il faut pour la maison partagée. Donc, on est dans quelque chose de très concret parce que le promoteur nous a annoncé donc une livraison au mois de février. Oui. On l'attendait un peu plus tard. Bon, c'est au mois de février. On s'adapte. Voilà, tout le monde s'adapte. On a un animateur, une association qui s'appelle Vivacité qui va gérer cette maison partagée. Ce sont des professionnels qui viennent pour gérer cet établissement. Donc, on est tous sur les starting blocks. Mmh. Alors, il nous manque plusieurs choses. On a besoin de plusieurs choses.
Allez, on terminera par ça, voilà. Corinne, allez-y.
Alors, effectivement, on a toujours besoin de fonds et des personnes qui soient professionnelles dans la mobilité pour nous aider sur ce volet-là. Et on a imaginé du mécénat, Sorenis et d'intérêt général. Donc, on peut défiscaliser et on fait un appel là-dessus aux entreprises.
Un appel aux dons, quoi.
Un appel aux dons, voilà, pour pouvoir mettre en place ce volet mobilité. La deuxième des choses, c'est que les 18 maisons qui sont en accession sociale, il y en a encore qui ne sont pas vendues. Les jeunes, ceux qui sont du bassin de vie de Serrest, si vous voulez acheter une maison à quasiment moins 30%, c'est le moment. Voilà. Alors, le numéro de téléphone, vous pouvez passer par Sorénis, 07 88 88 26 91. On fera le relais avec le bailleur social.
Allez, super.
Merci.
Tout est dit, Corinne. Ça nécessiterait une émission complète pour parler de ce projet-là. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau. On va passer la parole à une autre personne autour de la table. Rémi Charpie,
oui,
vous êtes président de la Mutualité française, je le disais tout à l'heure. Quelle est votre mission au sein de la Mutualité française?
Il faut d'abord préciser ce qu'est la Mutualité française, c'est peut-être le meilleur à faire. Donc la Mutualité française regroupe l'ensemble des mutuelles qui sont adhérentes à sa fédération. Pour être adhérent à la Fédération des Mutuelles, la Fédération de la Mutualité française, il faut juste être une mutuelle qui soit à but non lucratif. Je fais la différence avec les assurances qui, elles, ont des actionnaires à rémunérer derrière, alors que les mutuelles, non, la seule préoccupation, c'est les adhérents, servir les prestations et avoir la cotisation la mieux adaptée.
Donc c'est une structure de l'économie sociale et solidaire.
Donc c'est donc une structure majeure de l'économie sociale et solidaire, puisque si on parle chiffres, alors non pas en chiffres de nombre de mutuelles, aujourd'hui les mutuelles en France, il doit y avoir en gros 380 ou 400 à peu près, qui sont regroupés dans divers groupements. Et puis nous, ce que l'on doit faire au niveau local, on est les représentants de l'ensemble de ces groupements. Donc quand je suis le président de la Mutualité française sur les territoires 04-05, je représente donc l'ensemble des groupements mutualistes sans distinction. Donc dans nos missions, on en a plusieurs. Le premier, c'est d'être un représentant pour porter le message, ce qui est le cas par exemple aujourd'hui. On a des missions aussi qui consistent à travailler sur la prévention, parce que ça, la prévention, c'est quelque chose de majeur. Et toutes les actions que l'on met en place dans le département 04, par exemple, c'est une centaine d'interventions par an en lien avec les communes, avec les CCAS, avec d'autres structures, qui nous permettent de toucher environ 1000 personnes. Alors, il y a une partie de jeunes, mais très peu, ça se passe généralement sur Digne avec l'IUT ou avec le lycée. Et la plupart des autres actions sont dirigées vers les personnes âgées, vers les seniors, et ça se pratique en lien directement avec les communes.
Et concrètement, Rémi, par quoi ça consiste? Quel est l'accompagnement du bien vieillir à la Mutualité française auprès de ces publics-là?
Donc la Mutualité française, dans ses missions de prévention, comporte donc à sa disposition un certain nombre d'actions qui sont spécifiques, qui sont dirigées vers les seniors.
Est-ce que vous en avez une ou deux à nous préciser, bah, peut-être ?
Il y en a plein. Donc
une action phare de 2025 que vous souhaiteriez valoriser
C'est pas une action phare, ce sont des actions que l'on mène de façon récurrente.
Okay.
C'est-à-dire qu'il faut d'abord permettre aux personnes âgées de savoir où elles en sont du point de vue de la santé. Donc, à savoir où on est du point de vue de la santé, il y a donc d'abord les consultations avec le médecin, c'est la première des choses. Mais ensuite, il y a tout ce qui est mis en place lorsqu'on organise des check-up santé dans les communes, avec les CCAS et puis avec tous les partenaires médicaux et paramédicaux qui peuvent être disponibles ce jour-là. La dernière qui a eu lieu, c'est à Fort-Calquier, j'en prends celle-ci en exemple. Il y avait donc médecins, il y avait des paramédicaux, il y avait des associations qui étaient là.
Concrètement, c'est la Mutualité française qui prend le téléphone, qui appelle les médecins, qui appelle les personnes de santé pour organiser ces rencontres.
Nous avons une personne qui est particulièrement dédiée, c'est Martine Vinatier qui est présente aujourd'hui. Elle est particulièrement dédiée à cette organisation-là. Okay. Donc, on travaille aussi en lien avec le département. Le département qui organise tout ce qui est financement par la CNSA, qui arrive à la CFPPA, qui arrive au niveau du département. Voilà. Et ensuite, il y a des projets d'action qui sont présentés pour répondre aux grands critères nationaux. Donc le bien vieillir, la mobilité, les émotions, les aidants, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, quand on organise une journée comme celle-ci, comme on organise généralement, c'est de permettre à ces personnes âgées de rencontrer ce jour-là des professionnels de la santé. Elles ont un petit carnet à disposition, c'est un livret de santé.
Okay.
Et dans ce livret de santé, elles font le tour avec les différents professionnels qui sont là. Ça permet d'établir à la fin de savoir s'il y a une problématique ou pas. Elles savent où elles en sont. Alors, on a des gens qui sont là avec des audiomètres. On a là des opticiens qui contrôlent la vue. On a donc Martine qui est là pour le projet ICOP qui permet de déterminer un certain nombre de déterminants au vieillissement. Le cœur, la mobilité, la santé, s'asseoir, se lever, savoir se repérer dans l'espace. C'est quelques petits événements qui sont comme
diagnostic,
ça.
Un mini diagnostic
voilà, qui permet de savoir là où on en est. Et il est suivi dans le temps.
Okay.
Il s'est suivi dans le temps. Yes. Et quand les personnes ont fini la journée, alors, au-delà de l'aspect rencontre avec un professionnel et dépistage éventuel, parce qu'il y a toujours les dépistages qui sont faits, et donc les gens sont renvoyés vers le médecin à ce moment-là, au-delà de ça, c'est aussi une journée de convivialité. C'est une journée où on se retrouve, on permet de discuter. Ça marche très bien, il y a beaucoup de monde, et donc ça, c'est une bonne façon de travailler, et puis de préparer aussi aux relations, parce que quand je disais tout à l'heure, on travaille aussi en lien avec les associations, donc ça nous permet d'avoir un réseau important pour signaler effectivement les problématiques.
Est-ce que vous considérez que vous êtes un point de convergence au niveau du territoire pour justement les personnes âgées en disant voilà, j'ai un problème, c'est vers la Mutualité française que je vais me tourner? Comme ça, comme là vous l'expliquez, vous arrivez à organiser un temps de rencontre où vous faites converger plusieurs énergies pour le fait d'accompagner ces personnes âgées dans leur bien vieillir. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer comme ça?
Comment ces personnes âgées arrivent à venir à cet événement-là aussi?
Donc les personnes, elles reçoivent comment? Elles reçoivent l'information par leur mutuelle, par leur groupement mutualiste.
D'accord.
Voilà, qui disent que elles le reçoivent par le CCAS de la commune ou par la commune qui organise. Donc il y a tout un réseau qui travaille, puisque nous on informe aussi les différents réseaux avec lesquels on peut être, comme la DMR ou comme d'autres. Et donc on essaye d'élargir au maximum pour que justement les personnes puissent y accéder. Donc ces journées de prévention sont un point important, mais c'est un point parmi d'autres. C'est pas le point central. Ce qui est important, c'est justement cette convergence de cette coordination qui nous permet à tout le monde associatif qui est dirigé vers les personnes âgées d'être le plus pertinent possible pour pouvoir offrir une prévention et avoir un suivi après.
Merci Rémi, là on voit de nouveau l'importance du partenariat dans l'exemple que vous avez pu donner sur ces journées sur Fort-Calquier qui a été organisée il n'y a pas très longtemps. Avant de donner la parole à Emmanuel Martin, est-ce que vous avez une dernière chose que vous souhaitez évoquer avec nous, une actualité particulière à la Mutualité française?
Je crois qu'il faut... c'est une information qui intéresse à la fois la mutualité, c'est-à-dire de façon générale, puis à la fois aussi l'économie sociale et solidaire. Ce sont les discussions qui ont lieu en ce moment à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de financement de l'État et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Si je choisis d'abord l'aspect uniquement ESS, c'est 54% du budget qui diminue en moins.
On y reviendra aussi, Rémi, avec les autres séquences.
Oui, avec d'autres séquences. Mais donc, je veux dire par là que c'est important pour le monde associatif, sachant que l'économie sociale et solidaire dans un département comme le nôtre, c'est 20% de l'emploi privé, sans compter toutes les interactions qu'il y a auprès des citoyens. Donc, c'est un élément majeur. Et puis, l'autre, pour être concis, qui intéresse donc directement le plan de financement de la sécurité sociale, c'est inédit. L'ineffable budget qui nous était préparé par l'État. 7 milliards et demi d'économies concernant la santé, ça c'est jamais vu. Rappelez-vous, l'année dernière, c'est 4 milliards et demi avec Bérou, 7 milliards et demi là. Et où est-ce que l'État veut absolument trouver les moyens? Il ne va pas chercher les moyens là où ils le sont, mais il vient faire la poche des assurés sociaux et en particulier des retraités et des plus démunis. Et ça, c'est inadmissible.
Parce que le risque, il est énorme pour différents pans de la société. Vous l'avez rappelé, Rémi, aussi, et les publics, tous les publics qui sont impactés aussi directement, et les bénéficiaires des mutuelles notamment.
Tout le monde est impacté. Donc, si on considère que chacun est un assuré social, chaque citoyen est impacté. Alors, que l'on soit vieux ou que l'on soit jeune.
Ouais.
Hein, les prestations gelées, les indemnités de logement pour les jeunes gelées, il y a tout un tas de situations de précarité qui vont encore s'accélérer. Je rappelle quand même qu'il y a un peu plus de 10 millions, on a dépassé le seuil des 10 millions de pauvres. Et alors que le financement de la sécurité sociale, si on ne regarde uniquement que les exonérations qui sont faites auprès des grandes entreprises, on ne parle pas des TPE ou des PME comme les nôtres dans le département, on parle des très grandes entreprises. Si on va chercher ces milliards-là d'exonérations sociales, de cotisations sociales ou d'exonérations fiscales, on ne parle plus du déficit de la sécurité sociale. Le déficit de la sécurité sociale, ce n'est pas de rechercher en essayant de faire des économies sur tout le monde, c'est plutôt de rechercher les ressources nécessaires à servir. Je rappelle que la sécurité sociale née il y a 80 ans, c'était de dire, chacun cotise en fonction de ses moyens et utilise en fonction de ses besoins. Aujourd'hui, ceux qui ont créé la sécurité sociale, ils doivent se retourner dans leur tombe.
Et si vous seriez aujourd'hui devant Ambroise Croizat, fondateur de la sécurité sociale, vous lui diriez quoi en tant que président de la mutualité française?
Je lui dirais, regarde un peu le gâchis que les politiques sont en train de mettre en place pour ne pas oser faire cotiser ou faire contribuer les plus riches.
Le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. On va passer la parole à Emmanuel Martin après ce sujet vaste que vous connaissez aussi. Vous dirigez une association qui est l'ADMR, la Fédération de l'ADMR pour les Alpes de Haute-Provence. Vous avez des salariés. Vous êtes à l'échelle départementale. J'imagine que vous êtes impacté aussi par les aspects financiers. Mais d'abord, parlez-nous de votre mission. En quoi consiste l'ADMR? Parlez-nous de ça dans un premier temps.
Oui, alors l'ADMR, c'est une grande maison qui regroupe beaucoup de services, toute une offre de services à destination des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, bien sûr, avec une particularité sur le département d'avoir effectivement des interventions majoritairement à destination des personnes âgées. Donc, nous offrons toute une panoplie de services en fonction des prises en charge et des plans d'aide, avec toujours le souhait de pouvoir maintenir la personne à son domicile tant que c'est possible, avec aussi sur le département donc une trentaine d'associations qui répondent en proximité aux besoins des personnes, avec également deux accueils de jour pour les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou apparentée, et un service de soins infirmiers à domicile. Cette année, l'ADMR fête ses 70 ans sur le territoire. Elle a été créée sur Oraison.
Voilà, très bon anniversaire.
80 ans sur le plan national. Donc, on peut faire une similitude avec la création de la sécurité sociale, parce qu'effectivement, c'est tout ce qui a été créé à cette époque-là. Donc, il y a 80 ans, c'était vraiment pour... avec des intentions louables, avec des objectifs plus que favorables. Et aujourd'hui, on est inquiet. Alors, je rejoins un petit peu la discussion précédente sur un petit peu ce qui se passe au niveau national avec des incertitudes pour les collectivités locales. J'en profite pour remercier le département. Et des incertitudes, bien sûr, sur les ressources et sur les besoins qui sont grandissants, mais aussi sur le recrutement et sur la valorisation des métiers de l'aide à domicile, qui sont souvent reconnus en période de crise, où on va effectivement qualifier toutes ces personnes d'indispensables. Et puis, le temps passant, on se rend compte que la revalorisation des salaires, elle n'est pas toujours au rendez-vous, que les besoins sont grandissants, que les pathologies sont multiples au domicile.
Vous avez des postes en attente, Emmanuel,
oui,
ce moment ?
Oui, il y a toujours des recrutements, il y a toujours des besoins de recrutement. On essaye de répondre aux besoins, mais les besoins augmentent beaucoup plus vite que nos ressources en personnel. Ensuite, on a aussi la volonté de formaliser un parcours de formation pour l'ensemble des salariés, diplômés ou non. Donc c'est vrai que ça les sécurise aussi dans l'accès à l'emploi par un parcours d'intégration qu'on a institué pour tous les salariés, qui dure 5 jours avec à minimum les bases du domicile, hein, que ce soit les bases en termes d'entretien, mais aussi des règles déontologiques, le respect des valeurs de l'ADMR, et aussi des formations sur les sauveteurs secouristes au travail, hein, pour avoir vraiment des salariés qui se sentent aussi entourés. Parce que la problématique, c'est toujours l'isolement à la fois du salarié, d'où certains jeunes qui hésitent à intégrer le secteur du domicile.
Vous avez combien de salariés à l'ADMR ?
En tout, sur le département, environ 600.
600 salariés ?
Oui.
C'est colossal.
C'est beaucoup.
Non, mais c'est...
C'est beaucoup, mais en même temps, on a beaucoup de besoins et c'est ça va croître encore. On aura besoin de personnes de plus en plus formées et qualifiées. Et peut-être pour vous dire un mot aussi des partenariats qui sont en train de se créer pour le 1er janvier prochain.
Oui, on terminera là-dessus.
Voilà, sur les services autonomie, parce que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui va permettre de faire se rejoindre l'aide et le soin,
oui,
avec une coopération qui sera clairement établie et organisée pour les structures SIAD et services d'aide et d'accompagnement. Donc voilà, on est aujourd'hui sur ce besoin de personnel, essayer aussi d'imaginer des accompagnements qu'on appelle nous aussi à 360 degrés autour de la personne, parce qu'il y a beaucoup l'isolement, la solitude, mais ensuite il y a aussi toute la problématique de l'isolement qui fait que le logement n'est pas adapté. Il faut effectivement s'occuper de monter des dossiers, d'avoir accès à des aides éventuellement, enfin tout ce qui va concerner le quotidien et le bien vivre au domicile. Et c'est vrai que ça suppose aussi d'autres peut-être profils de personnel aussi, hein, qui peuvent intégrer.
D'où l'idée d'un plan de formation et d'une montée en compétences aussi sur...
Donc chaque année, on a à peu près 250 personnes qui suivent nos formations en interne, hein, avec un budget d'environ 160 000 euros. Donc on investit vraiment sur la formation et on pense que la sécurité au domicile et la bonne intervention, c'est la bonne solution pour la personne jusqu'au jour où ça ne va plus être possible. Voilà.
L'appel est lancé aussi. Il y a des emplois à pourvoir auprès de la DMR des Alpes-de-Haute-Provence et j'imagine dans d'autres DMR, puisque cette émission Fréquence Mistral est à vocation régionale. Donc si on nous entend, en tout cas, le bien vieillir recrute et c'est un secteur qui est plutôt, entre guillemets, dynamique, si je peux le résumer comme ça. On va terminer cette séquence. Je vous remercie d'être venu, d'être passé pour nous parler de votre quotidien et de votre projet également. Merci Emmanuel, merci Rémi, merci Corinne. On va laisser la place à une deuxième séquence un peu plus politique et d'ici là, on peut lancer un micro-trottoir qui va venir laisser nos prochains invités s'installer tranquillement autour de la table. On peut lancer un micro-trottoir, celui de Yann Renaud de La Massif, qui va nous présenter son action en tant que mutuelle également sur le territoire.
Oui, bonjour, Yann Renaud. Donc je suis un délégué de sociétaires, donc élu par les sociétaires à La Massif. Je suis sur le terrain et je suis à l'initiative d'un certain nombre de projets comme tous mes collègues délégués, notamment sur le sujet des aidants, qui est un sujet d'actualité très important pour nous, dans nos familles, dans les familles de nos sociétaires. Et je suis par ailleurs à la commission régionale sur l'ESS, sur la thématique de l'ESS, et dans ce cadre-là, nous avons aussi des actions de soutien auprès de structures de l'ESS.
Comment vous soutenez l'ESS ?
Il y a plusieurs axes. Il y a notamment le fait qu'on soutiennent la promotion de l'ESS auprès de publics diversifiés, souvent des lycéens et des personnes en école supérieure, parce qu'ils sont à l'initiative de projets créatifs et souvent des projets créatifs d'emploi aussi. Ça, c'est important. L'autre axe de soutien, c'est soutenir des structures pour pouvoir en promouvoir leurs actions, pour pouvoir promouvoir leur impact sur le territoire et le fait qu'elles font vivre nos territoires et qu'elles aident véritablement et les aidants et les personnes qui ont besoin de leurs services d'aidants.
Quelles sont vos actions pour le bien vieillir ?
Alors, nos actions pour le bien vieillir, c'est permettre à la population qui en a besoin que les aidants qui viennent à leur côté soient le plus possible accompagnés par différents dispositifs pour qu'eux-mêmes soient bien. Un aidant qui est bien dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie d'actif d'aidant, sera évidemment un accompagnant hors pair pour les anciens, mais pas que les anciens, les personnes ayant un handicap et qui ont besoin d'aidants.
Vos actualités en ce moment ou à venir ?
Alors les actualités actuelles, on est au mois de novembre, c'est le mois de l'ESS, et dans ce cadre-là, il y a de multiples participations à des événements autour de la thématique de l'ESS, mais à travers la thématique de l'ESS, auprès des structures qui accompagnent la création d'activités sur les aidants. On est évidemment présent dans beaucoup de forums, les assises pour le département des Alpes-de-Haute-Provence, les assises de l'ESS, auxquelles nous participons depuis 3 ans maintenant. Et nous sommes véritablement aujourd'hui un acteur régulier, actif, auprès des structures qui sont là.
Pour terminer, quel est le projet de cette année dont vous êtes le plus fier ?
Oui, un des projets pour le département des Alpes-de-Haute-Provence, un des projets dont on est le plus fier, et c'est véritablement notre participation ici, parce que il y a un écosystème, il y a un ensemble de gens, et on est ravis non seulement de les retrouver dans un cadre là où on peut discuter au cours d'une demi-journée, c'est des temps partagés importants, mais aussi le reste de l'année où ponctuellement on arrive à soutenir certains d'entre eux dans leurs projets. Et donc là, le fait qu'on remette un prix à une des structures, on en est vraiment fiers, c'est le cœur même, l'ADN même de notre action, et c'est l'ADN de notre moteur pour les délégués sociétaires quand on est dans un territoire comme les Alpes-de-Haute-Provence.
On est de retour sur l'émission spéciale sur Fréquence Mistral. De nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette émission. On est sur une deuxième séquence un peu plus politique, une émission dédiée à la 4e édition des Assises de l'économie sociale et solidaire. Jérôme Martinez, vous représentez la Chambre de l'économie sociale et solidaire pour les Alpes-de-Haute-Provence. Vous êtes à l'initiative des Assises de l'ESS depuis le début, avec un certain nombre de partenaires. On est sur cette 4e édition, mais dites-nous un petit peu, faites-nous un peu l'état des lieux de l'économie sociale et solidaire sur le territoire des Alpes-de-Haute-Provence.
Alors tout d'abord, bonjour aux auditeurs. Je tiens quand même à signaler que l'ESS dans le département se porte bien. Il y a toujours effectivement une part considérable du développement économique grâce à l'économie sociale et solidaire. Quelques chiffres, 6543 salariés, c'est-à-dire 18,2% de l'emploi privé, ce qui représente à peu près plus de 5000 équivalents temps plein. Nous avons aujourd'hui plus de 863 structures de l'ESS. Quelques indicateurs aussi, 66% des emplois sont occupés par des femmes. Rappelons qu'on génère 152 millions d'euros de salaire. Maintenant, l'ESS est présent dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la santé, l'hébergement, la restauration, la finance, l'agriculture, l'enseignement, mais surtout l'action sociale, puisque nous avons la moitié des salariés qui travaillent dans l'action sociale, service à la personne, donc on a l'insertion d'activité économique. Donc voilà, par rapport au niveau régional et au niveau national, on peut dire que l'ESS se porte plutôt bien dans le 04.
À une place très, très très importante d'un point de vue du salariat privé. C'est quasiment le double de salariat privé par rapport à l'échelle nationale, si je ne me trompe pas. En tout cas, ou quasiment le double. Donc c'est quand même un secteur majeur sur les Alpes-de-Haute-Provence. Vous représentez la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, je le disais tout à l'heure. Quel est le rôle de la Chambre, Jérôme Martinez, notamment à l'échelle locale ?
Alors il y a, on va dire, trois principales missions. La première, c'est une fonction de représentation auprès de l'ensemble des acteurs institutionnels, privés, publics. Donc depuis la loi 2014, les CRES représentent l'ensemble des associations, des mutuelles, des coopératives, mais aussi les fondations et puis toutes les entreprises à but d'utilité sociale avec, pour faciliter les demandes de financement. Ça c'est une première mission. La deuxième, c'est de l'accompagnement, puisque nous avons, grâce à la région aussi, des soutiens pour pouvoir aussi permettre de développer mon projet d'entreprise. Mmh. Donc ça, c'est pour les porteurs de projets, mais aussi pour les entreprises qui souhaitent changer d'échelle, hein, de grandeur d'échelle. On les accompagne aussi pour rechercher des financements européens, etc. Nous avons une fonction aussi donc d'accompagnement, on l'a dit, d'animation. La preuve aujourd'hui, puisque nous sommes ravis d'organiser cette quatrième édition qui vient renforcer, je dirais, l'image de l'économie sociale et solidaire sur nos territoires. Et puis on a aussi une mission, je dirais, de veille, d'observatoire, puisque les chiffres que je vous ai donnés, c'est grâce effectivement à une mise à jour régulière de l'ensemble, effectivement, de la réalité des entreprises de l'ESS. Donc les quatre principales missions, je viens de les donner.
Et justement, sur ce rôle d'observation, qu'est-ce que vous observez sur la période qu'on vit actuellement, sur le secteur de l'économie sociale et solidaire?
Alors, la progression, elle existe. On a, comme je le disais tout à l'heure, des initiatives locales qui mûrissent un petit peu partout sur le territoire. On peut parler des coopératives agricoles, on peut parler des associations d'insertion sociale, des structures d'économie circulaire aussi, hein. De plus en plus, on a des ressourceries qui sortent ici ou là sur la gestion des déchets. On a des acteurs qu'on connaît tous bien, hein, que ce soit les ESAT, les ateliers et chantiers d'insertion, les entreprises adaptées. On a des grosses structures comme la PAJH, hein, qui représente plus de 250 salariés, mais comme je disais aussi tout à l'heure, des coopératives agricoles, vous verrez aussi le CIEDFF, vous verrez aussi Copilote ta vie, des CAE, enfin bref, nous sommes très très présents, l'atelier partagé aussi, donc ça c'est une réalité, donc une progression qui est constante, et aujourd'hui 6543 salariés, quand on a fait la première édition on était à 6000, ça veut dire que voilà, ça continue à progresser.
Si je me permets, les invités qui étaient juste avant, ils ont constaté quand même, par rapport à un contexte national autour de l'ESS, bah, des difficultés, notamment autour de la question du financement, moins 54% sur le budget qui est prévu. Vous, en tant que président de la CRES du 04, est-ce que c'est un sujet qui est discuté par ces structures? Voilà, vous présentez du positif, ça avance, il y a plein de sujets, ça embauche. Comment est vécu cette espèce de double cliquet ou inversement, au niveau national, on a l'impression que c'est en train de perdre pied?
Alors c'est vrai que nous sommes dans le cadre du mois de l'ESS, un moment de fête, mais dans un contexte qui est alarmant, inquiétant. On l'a dit, hein, des coupes budgétaires énormes, moins 54%. J'entendais ici ou là des prévisions budgétaires du moins 44% selon certains secteurs, que ce soit des radios, que ce soit plein d'autres associations. Je donnais aussi des exemples criants. Un tiers des associations ont à peine 3 mois de trésorerie devant elles pour pouvoir justement assurer les salaires. Je crois qu'on ne mesure pas que ces choix politiques auront de graves conséquences. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés. On parle de 90 000. Mais au-delà de ça, je voudrais rappeler que nous remplissons des missions parapubliques. Et si on dégrade à ce point l'économie sociale et solidaire, ben on touche de près à l'accès aux droits, à la cohésion sociale et tout ce qui permet de faire vivre les solidarités dans nos territoires. Alors oui, évidemment, dans ce contexte de fête de l'ESS, nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin d'interroger, non seulement de faire un plaidoyer, mais encore une fois, montrer que l'ensemble des acteurs locaux sont capables aussi, ensemble, de reconnaître la portée de l'ESS. Moi, je suis satisfait de pouvoir travailler avec d'autres chambres consulaires. On signe des conventions, on a des... je dirais une réciprocité avec les acteurs publics, etc. Il faut vraiment que dans les territoires, on puisse se rassembler pour dire non, continuons à donner de la qualité à nos entrepreneurs pour leur permettre à la fois de faire du développement économique et de remplir leur mission de cohésion sociale.
À vos côtés, vous avez Stéphanie Colombérou, vous êtes quatrième vice-présidente déléguée aux affaires sociales et aux solidarités au département des Alpes-de-Haute-Provence. Donc un niveau de collectivité territoriale locale. Comment soutenez-vous l'économie sociale et solidaire à l'échelle départementale ?
Alors bonjour à toutes et à tous. Eh bien, le département en fait travaille beaucoup en fait avec l'économie sociale et solidaire, puisque dans nos missions de solidarité, nous avons tout ce qui est accompagnement des personnes âgées, accompagnement des personnes en situation de handicap. Le logement des personnes en situation de handicap et personnes âgées, ce sont beaucoup des entreprises d'économie sociale et solidaire qui l'assurent, les services, on a parlé des services à la personne, aussi l'insertion, qui est un pan aussi important de nos missions, et donc M. Martinez en a parlé, les chantiers d'insertion, les associations d'insertion économique. Donc en fait, ils sont là pour aussi, c'est notre bras armé sur le territoire pour mener ces politiques, nous les soutenons, nous les finançons. Et je pensais ce que disait Monsieur Martinez, que nous sommes rappelés que notre département, c'est le département le plus grand de la région PACA et le moins dense, et que du coup nos services parapublics, tu disais, mais aussi en fait nos services à la personne, ils sont plus coûteux qu'ailleurs dans nos territoires ruraux, et c'est important de se rendre compte que du coup on n'est pas des territoires attractifs pour le privé, et donc on est des territoires où on a besoin de cette économie sociale et solidaire pour pouvoir assurer ses missions, des missions qui coûtent plus cher parce qu'il y a beaucoup de trajets, il n'y a pas beaucoup d'usagers, et donc il faut aller partout là où ils sont, parce qu'on est normalement dans un état où les droits doivent être les mêmes partout en France, et donc on doit aussi avoir les mêmes services et les mêmes droits qu'on vive en ville ou en milieu rural. Donc voilà, nous soutenons l'économie sociale et solidaire. Pour le moment, notre département n'est pas trop en difficulté, même si on est obligé aussi de restreindre nos budgets, d'être à l'économie, parce qu'on ne sait pas non plus nos recettes. Hein, elles n'ont pas été décidées. Donc on fait des budgets comme toute collectivité.
C'est en discussion à l'échelle nationale.
Voilà, budget prévisionnel un an à l'avance, mais sans savoir exactement quelles seront nos finances.
C'est un impact, en tout cas direct et très important à l'échelle territoriale. On voit le lien entre le niveau national et le local.
Mais
Pascal,
techniquement, ça veut dire quoi là ? Si vous n'avez pas d'informations sur votre budget, comment vous arrivez à anticiper ? C'est quoi ? C'est faire la restriction budgétaire dès maintenant en disant a priori on va avoir moins, donc comment vous faites ?
Alors, on a appliqué des restrictions sur chaque budget, en fait, chaque pôle du département. On a fait des diminutions de 7% à peu près sur les subventions, en essayant quand même de prioriser. Du coup, on est obligé de retourner plus sur nos politiques obligatoires, et peut-être laisser de côté certaines politiques volontaristes, ou plutôt essayer de financer toujours les actions qui ont vraiment un effet, et peut-être pas aller éviter le saupoudrage et vraiment être sur des aides qui permettent à des structures ou à des dispositifs d'exister.
Et vous, aujourd'hui, en tant qu'élu, politiquement, la vision qui est en face de nous 2026, vous en pensez quoi ?
Alors, c'est difficile. Moi, je suis inquiète.
Okay.
Je suis inquiète par rapport à ce qui arrive. Après, bon, je vois quand même que sur le territoire, et pour ne pas être totalement défaitiste, et puis parce que je suis plutôt une grande optimiste, dire que quand même sur nos territoires ruraux, il y a un travail partenarial, il y a vraiment une interconnaissance, on travaille ensemble, on se soutient. Donc, même si à Paris, bon, il y a des annonces régulièrement qui vont dans un sens puis dans l'autre, je trouve que sur les territoires, on arrive quand même bien à travailler politiquement avec l'échelon communal, l'échelon départemental, avec le soutien de la région, avec les associations, avec les entreprises. Il y a de l'entraide. Voilà, et on sait ce qu'on finance et pourquoi on le finance. Et donc, ça permet quand même d'être plus efficace, je vais dire. Mais, bon.
Mais effectivement, moi, si je vous pose cette question, c'est absolument pas pour vous bloquer. Mais c'est vrai qu'il y a un contexte inédit, en tout cas moi à l'échelle de ma petite vie je le trouve inédit sur le financement de SS. Bon, je suis content d'entendre que généralement on dit qu'on n'a pas d'argent, on a des idées. Bon, a priori dans le 04 il y a quelques idées alors.
Oui, il y a des idées, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de moyens. Et c'est vrai que aussi l'État nous demande d'innover, d'être créatif. Hein. Je suis allée à Paris, il y avait une journée sur la pauvreté en milieu rural. Donc ils nous disent qu'il faut qu'on aille sur la mobilité solidaire, qu'il faut qu'on fasse plein de choses. Mais il n'y a pas les enveloppes qui vont en face. Donc à un moment, il faut aussi que... On a des idées, on essaie d'être créatif, on s'appuie sur les entreprises et les associations du territoire, mais à l'impossible, nul n'est tenu non plus.
Il y a une intelligence collective, quelque part, qui est notamment organisée à l'échelle départementale. Aller chercher des financements européens au travers d'opérateurs de manière très opérationnelle pour pouvoir réaliser des missions et pouvoir être soutenu par le département, que ce soit à venir faciliter un certain nombre de démarches. En tout cas, on voit bien à l'échelle départementale cette entraide que vous avez évoquée, qu'a évoqué Pascal. Un dernier mot pour terminer.
Oui, du coup, parler d'aller chercher des financements. On est aussi dans cette démarche, nous, département, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des financements européens pour financer, nous, sur le territoire, des dispositifs sur l'insertion, notamment. On essaie de répondre aussi à tous les appels à manifestation d'intérêt de la CNSA sur l'autonomie, j'en ai parlé tout à l'heure, pour l'ouverture des assises, pour financer de l'aide à la mobilité auprès des services d'aide à la personne, mais aussi du financement d'analyse de pratiques professionnelles, pour essayer de soutenir aussi l'attractivité de ces métiers, parce qu'on manque de personnel dans ces services. Voilà. Donc on essaie, nous aussi, de nos services, d'aller chercher des financements européens à l'État, enfin partout où on peut.
C'est très concret.
Voilà. Bravo. Bravo, bravo.
Merci beaucoup. Merci Jérôme Martinez. Merci Stéphanie Colombero d'être venue. On va terminer cette séquence. On va faire une petite transition de quelques secondes de musique, le temps que nos nouveaux invités pour cette dernière séquence d'émission rejoignent le plateau.
Thank you.
On va terminer cette émission spéciale des Assises de la 4e édition des Assises de l'économie sociale et solidaire avec nos deux derniers invités. Stéphane Figuière, vous représentez la Chambre des métiers de l'artisanat et vous êtes également artisan plombier. Vous allez nous parler de votre métier et puis de votre représentation. Vous êtes co-organisateur des Assises de ces 4e édition des Assises de l'économie sociale et solidaire. Et Francis Kuhn, premier adjoint à la ville de Digne-les-Bains. Vous êtes à l'initiative de ces assises de l'économie sociale et solidaire avec d'autres élus et d'autres membres d'un point de vue collectif. Vous allez nous parler de ces assises. Quelle est la philosophie ? On va commencer par vous. Quelle est la philosophie des assises de l'économie sociale et solidaire ? Pourquoi vous avez créé ces assises-là il y a maintenant 4 ans ? Et quelle est la philosophie, peut-être un peu plus spéciale, de cette 4e édition ?
Alors, le projet des Assises a été lancé dès 2020, au lendemain des élections municipales. C'était vraiment un projet que je souhaitais porter, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur notre territoire autour de l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup d'acteurs. Et je suis moi-même à l'époque très impliqué dans différentes associations. Je participe, je préside des associations de l'économie sociale et solidaire. Et je me dis, mais ces entreprises ne sont pas suffisamment connues. Ces entreprises ne se connaissent pas entre elles. Il n'y a pas d'interconnaissance. Et ces entreprises ne collaborent pas, ne coopèrent pas entre elles. Et pour moi, ça me paraissait être un enjeu essentiel pour faire en sorte qu'elles soient reconnues et qu'elles puissent se rencontrer et travailler ensemble.
Donc le monde de l'économie sociale et solidaire et le monde de l'économie entre guillemets classique, je ne sais pas si c'est le bon terme, vous allez me le dire. Stéphane Figuière, parlez-nous de votre présentation. Pourquoi la Chambre des métiers s'inscrit dans ces 4e éditions des Assises ?
Alors bonjour à tout le monde. Mais déjà, nous avons une convention qui a été signée aussi avec la région. Donc on a une convention avec l'économie sociale et solidaire régionale et aussi la CMA de région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a signé une convention, donc c'était logique que quand Jérôme Martinez m'a parlé de faire ces assises de l'ESS ensemble, il m'a paru tout à fait logique de participer justement. Et donc nous, avec le côté donc artisan, quoi. Donc les artisans qui peuvent œuvrer pour aider justement au bien vieillir à la maison. Donc il y a nos artisans du bâtiment, mais pas que, parce que bien vieillir à la maison aussi, c'est avoir d'autres artisans qui peuvent venir, donc comme le coiffeur, les esthéticiennes et plein de métiers en fait annexes, et aussi nos artisans dans les centres-villes qui sont aménagés pour que les gens puissent rester chez eux et pas prendre la voiture pour aller loin faire leurs courses. Donc il est très important aussi qu'il y ait les boulangers, les bouchers, les fleuristes, tout un tas de métiers artisanaux qui soient à proximité de toutes ces personnes.
On est sur le sujet du bien vieillir. Vous êtes artisan plombier. Concrètement, vous me disiez tout à l'heure en off que c'est une bonne partie de votre activité. Oui. Vous accompagnez les personnes âgées dans leurs travaux. Comment ça fonctionne concrètement pour ces personnes-là ?
Tout à fait. Bon, alors déjà, il faut bien être avec eux. Voilà, moi, je me mets à leur place. Et donc, chaque fois que j'ai une personne qui me demande de venir pour faire, parce qu'en gros, 80% de mon travail, je refais des salles de bain. Donc, je casse des baignoires et je mets des douches et j'améliore leur salle de bain. Et donc, pour ça, par contre, je m'entoure toujours de bonnes personnes. C'est-à-dire que je fais venir un ergothérapeute,
okay,
pour voir avec lui et voir avec les clients, enfin les personnes, exactement la meilleure possibilité d'aménager leur salle de bain pour que ça puisse être pérenne, quoi, pour les années à venir. Parce qu'il y en a certains pour qui je fais, ils sont comme moi, en très bonne santé, mais ils sont amenés à vieillir. Et donc, quand on refait une salle de bain comme ça, c'est justement pour que ça dure très longtemps. Et donc, avec ces personnes-là, on arrive à travailler sur du long terme, on va dire.
Est-ce que vous êtes une porte d'entrée en tant qu'artisan plombier, ou il y a d'autres personnes, il y a d'autres structures intermédiaires pour arriver jusqu'à vous ?
Oui, il y a d'autres structures. Bah, déjà, il y a la CARSAT, il y a d'autres organismes de retraite qui peuvent s'occuper justement des clients et après les mettre en rapport avec des entreprises.
Donc si jamais il y a une personne âgée qui souhaite vous contacter, c'est possible aussi directement
Tout à fait, oui, il n'y a aucun problème.
Sur la partie, ce que je n'ai pas évoqué, Francis Kuhn aussi, vous avez cette étiquette autour de la pleine santé à l'échelle plus large de l'agglomération. On parle aujourd'hui de bien vieillir. Quel est le lien entre la pleine santé et le bien vieillir ici sur le territoire ?
Alors c'est tout un ensemble d'éléments pour emmener les personnes qui ont besoin d'accompagnement dans une série d'actions, de propositions, d'activités que la communauté d'agglomération soutient. Un des exemples les plus frappants qui fonctionne très très bien et qui est vraiment demandé par les personnes âgées, c'est le sport santé, la remise en forme par du sport adapté, par du sport qui est mis en place pour ces personnes-là. Et ça marche très très bien sur le territoire. Donc la communauté d'agglomération organise ce genre d'activité. Elle est labellisée Maison Sport Santé. Et on a aujourd'hui, au travers des différents partenaires de ce dispositif, une action concrète auprès des personnes pour leur permettre de rester en forme, de rester en bonne santé tout au long de leur parcours de personnes âgées.
On va terminer dans pas très très longtemps cette émission, parce qu'on est en direct, et on va rebasculer sur le format classique de Fréquence Mistral. Pourquoi ce choix du bien vieillir, tous les deux, aujourd'hui, pourquoi ce choix du bien vieillir pour les assises de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que c'est un sujet qui vient fédérer les acteurs? On le voit là. Est-ce que c'est un vrai sujet qui vient fédérer, ou c'est pour autre chose?
Non, je pense que c'est un sujet qui nous fait fédérer, et d'ailleurs ça nous fait travailler avec les collectivités, avec l'ESS, mais avec tous les partenaires. D'ailleurs il n'y a qu'à voir le panel de partenaires que nous avons aujourd'hui, et ça nous permet de nous rencontrer, et de travailler ensemble, parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose de positif pour nos seniors. Et voilà.
C'est un sujet qui doit nous fédérer. Nous devons trouver l'énergie. Nous devons trouver les ressources pour nous fédérer autour des personnes qui ont besoin d'accompagnement. Il y a des financeurs, il y a des maisons de retraite, il y a des mutuelles, il y a des banques, il y a des artisans. On parle de labels autour de ces actions-là. Il faut qu'on se fédère tous ensemble pour apporter le meilleur service possible à ces personnes.
Merci beaucoup. On voit aussi que c'est de l'économie pour nos territoires, forcément, en mêlant ces sujets-là. Merci beaucoup Francis Kuhn, merci Stéphane Figuière pour votre intervention. On va clôturer cette émission. Est-ce qu'on se laisse quelques mots, Pascal? Est-ce que toi, comment tu as vécu ces assises et cette émission?
Super émission. Les assises, c'est toujours un bonheur d'y être, de rencontrer tous ces acteurs. Merci à vous de cette initiative.
Hein, merci.
À l'agglomération, à la ville de Digne-les-Bains, à la CMA, à la CRES.
On remercie aussi nos techniciens. Et
voilà. Merci Fréquence Mistral.
Merci Fréquence Mistral. Merci Odile. Merci Tiffany. Merci Maxime et Jonathan. Jonathan en stage à Fréquence Mistral.
Et merci Charlie.
Oui. Très belle fin d'assises de l'économie sociale et solidaire, et on se retrouve très bientôt sur Fréquence Mistral.
À bientôt.
Au revoir.